Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonjour à tous. Aujourd'hui, les cours du Collège de France. Bonjour Nathan Vachetel. En 1992, vous avez été élu au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire et Anthropologie des sociétés méso- et sud-américaines. Vous êtes depuis 2005 professeur honoraire. Vos travaux se sont déployés sur deux grands terrains, les sociétés indiennes d'Amérique du Sud et les Maranes, deux types de populations qui ont dû faire face à d'effroyables catastrophes historiques. Dans le premier cas, la conquête espagnole, qui fut sans doute l'un des traumatismes parmi les plus violents de l'histoire de l'humanité, et l'Inquisition, qui préfigure les totalitarismes du XXe siècle, dont elle rassemble et expérimente toutes les horreurs. Ce qui frappe d'emblée dans vos travaux, Nathan Vachetel, c'est votre intérêt pour les crises d'identité très brutales et l'étude des diverses réponses que les hommes leur ont apportées. Alors, comment vous est venu le désir de travailler sur ces questions? Je crois que ça vous est facile de répondre, puisque dans votre dernier livre qui s'intitule « Des archives au terrain », vous parlez de votre parcours.
Je n'avais pas encore lu Walter Benjamin, qui insiste sur le fait que l'histoire est rédigée par les vainqueurs, mais j'avais déjà le sentiment qu'il fallait renverser ce que l'on peut appeler cette perspective de l'eurocentrisme, car nous étions donc dans les années 1960 et la conjoncture de l'époque était celle des mouvements de décolonisation. On parlait de l'émergence du tiers et même du quart monde, et l'idée donc a été celle de renverser la vision traditionnelle que l'on avait de l'histoire et de passer de l'autre côté, la conquête espagnole, les conquêtes occidentales, pas seulement l'espagnole, ont en effet été des événements traumatisants et dont les séquelles continuent encore pendant des siècles, sinon jusqu'à nos jours, et à l'époque donc, il s'agissait aussi, de mon point de vue personnel, hein, puisque j'essaie de retracer mon itinéraire personnel, j'espérais donc contribuer à la décolonisation de l'historiographie en adoptant ce point de vue des vaincus. Ma formation était d'historien, mais en choisissant de travailler sur les sociétés indigènes, je ne pouvais pas ne pas m'inspirer également de l'auteur qui, à l'époque, et continue encore à avoir une influence déterminante. Je parle évidemment de Claude Lévi-Strauss. Et donc, sur un sujet tel que celui de l'histoire des Indiens du Pérou, de Bolivie, je ne pouvais pas ne pas non plus combiner les méthodes donc de l'histoire, c'est-à-dire celle de l'étude des documents, hein, les documents de nos sources du XVIe siècle, et les problématiques également de l'anthropologie. Et c'est ce que j'ai toujours tenté de faire, au moins dans les travaux qui ont suivi, c'est-à-dire de combiner les méthodes et les problématiques de l'histoire et de l'anthropologie. C'est d'ailleurs aussi ce qu'indique l'intitulé de ma chaire.
Absolument, vous avez associé ces deux matériaux et vous les avez utilisés ensemble, systématiquement, et puis quelquefois séparément, c'est-à-dire d'un côté les archives, de l'autre côté le terrain, et puis le terrain éclairant les archives éclairant le terrain.
J'ai coutume de citer fréquemment Marc Bloch. Alors, je ne vais pas le citer maintenant littéralement, je n'ai pas la citation sous mes yeux, mais de mémoire. On ne peut étudier, l'histoire est l'étude du temps dans le changement, et il n'est pas d'étude des morts que l'on ne puisse associer à celle des vivants. Et je me suis toujours efforcé de combiner justement, alors aussi bien sur les Indiens d'Amérique que sur les Maranes, sur lesquels on reviendra tout à l'heure, de combiner donc l'histoire du passé et l'étude du présent. Car la compréhension que l'on peut avoir du passé permet justement de commencer à comprendre davantage le présent et inversement. Et c'est une démarche donc que l'on ne peut pas toujours aisément combiner, car tout dépend évidemment du choix du sujet. Certains sujets et les sujets sur les Indiens d'Amérique me permettait davantage de combiner histoire et ethnographie, surtout dans le livre sur le retour des ancêtres, mais précisément, c'est ce que je voulais préciser, j'ai choisi mes thèmes d'étude en fonction justement de cette aspiration que j'ai toujours eue de combiner étude du présent et étude du passé.
Et en effet, Nathan Wachtel, vous vous tenez entre deux sociétés, entre deux mondes, entre deux religions, entre deux mémoires, etc. Toutes ces questions rencontrent pas mal d'échos dans notre actualité. Alors, vous montrez aussi des choses tout à fait passionnantes du côté de la résistance, d'une certaine manière, qui sont le fait que les réponses sont aussi bien chez les Maranes que chez les Indiens d'Amérique, dans les deux cas assez semblables parfois. Par exemple, on pense à la manière dont sont absorbés, domestiqués et dont les vaincus s'approprient certaines catégories de pensée des vainqueurs.
D'accord, vous résumez bien certains aspects justement des travaux en question. Mais on peut, si vous me permettez, aller encore plus loin, hein, et à un moment donné, c'est, comment dire, métaphorique, mais il m'arrive même de parler d'un certain maranisme des Indiens. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au moins au XVIe siècle et au début du XVIIe siècle. C'était la manière des Indiens, des Indiens du Pérou, où les exemples abondent, qui, au moment donc où on persécute la pratique des idolâtries, c'est-à-dire à la fin du XVIe siècle et dans la première moitié du XVIIe siècle, les Indiens en question donc font semblant de pratiquer ce qu'on leur enseigne, c'est-à-dire les rituels chrétiens, mais dissimulent, par exemple, sous l'autel même de l'Église, l'idole qui est justement leur divinité, et cette manière de masquer, de pratiquer secrètement leur religion traditionnelle. Bon, par analogie, de manière métaphorique, j'ai pu dire qu'il s'agissait d'un maranisme indien. Mais ces pratiques secrètes, bon, les pratiques des divinités andines, en l'occurrence, continuent jusqu'à nos jours. Au moins, jusqu'à la fin du XXe siècle, quand je pratiquais le terrain ethnographique dans, sur le haut plateau bolivien. Mais dans le courant du XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, pensant au Pérou et en Bolivie, donc pour les sociétés andines, se constitue, se consolide ce que j'appelle le système de croyances pagano-chrétien. C'est-à-dire l'association, la combinaison par les Indiens eux-mêmes des rites chrétiens et des rites païens aux divinités traditionnelles. Et en combinant justement ces puissances divines, en les ordonnant suivant les catégories traditionnelles qui, dans le cas des sociétés andines, sont les catégories de l'organisation dualiste. C'est-à-dire que
le haut et
la
le bas,
combinaison des catégories, le haut, le bas, le masculin, le féminin, etc. Les saints chrétiens sont évidemment en haut, dans le ciel. Les divinités andines, païennes, sont, même s'il s'agit des hautes montagnes, mais c'est en bas, mais les deux divinités sont donc à des pôles opposés et complémentaires.
Oui.
C'est donc le christianisme que pratiquent les Indiens à partir du XVIIIe siècle. Ce système pagano-chrétien est consolidé et il continue pratiquement jusqu'au XXe siècle, jusqu'aux réformes, au moment où les églises évangélistes, pentecôtistes ont un grand succès. Du coup, l'Église catholique est contrainte de réagir de son côté. Mais restons-en au XVIIIe siècle, car là, on peut prendre un excellent exemple de réappropriation des éléments chrétiens, donc, contre la domination coloniale. Et il s'agit de la grande révolte qui a mis en péril le système, la domination coloniale, la grande révolte de Tupac Amaru dans les années 1780-81. Le temps est bref, le temps des révolutions, c'est le temps court de Brodel. Bien. Mais l'importance de l'événement a été considérable. Aujourd'hui encore, les noms de Tupac Amaru, Tupac Katari sont emblématiques des mouvements révolutionnaires, des mouvements de lutte armée du XXe siècle, les guérillas tupamaristes, le sentier lumineux, s'inspire de ces exemples. Tupac Amaru est devenu un héros national au Pérou, mais au XXe siècle seulement. Bien. Mais alors, que se passait-il pendant la révolte de Tupac Amaru? C'est un déchaînement de violence inouïe. Alors, ce n'est pas que je sois tellement, fasciné par ces déchaînements de violence, mais c'est ainsi. Et bien que, alors nuance, le programme initial de Tupac Amaru n'était pas aussi radical, mais car dans son programme, il s'agissait d'allier justement les Indiens, mais aussi les créoles natifs des pays d'Amérique et les Métis, contre les Espagnols péninsulaires. Mais au fur et à mesure que les émeutes, les soulèvements se répandaient, la radicalisation était très rapide. Et radicalisation, cela voulait dire massacre des Espagnols, non seulement péninsulaires, mais aussi des créoles, mais aussi des métis, tout ce qui n'était pas indien. Bon, pourquoi? Parce que les vrais chrétiens, c'est nous, les Indiens, les Espagnols. Ce sont des hérétiques, ce sont des apostats, ils sont inspirés par le diable. Il faut massacrer les Espagnols parce que les bons chrétiens, c'est nous. Et en écho, alors là, c'est l'exemple des révoltes de « je change, non pas de continent, mais d'air culturel et nous passons à l'Amérique du Nord, chez les Mayas. Et c'est la grande révolte, la guerre des castas, qui a été également terrible en ce qui concerne la viol. Et pendant la guerre des castas, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, dans ce qui est aujourd'hui la province ou l'état de Quintana Roo, c'était un territoire pratiquement indépendant, hein, pendant un demi-siècle, même trois quarts de siècle. Bon. Et l'un des éléments de la culture occidentale repris par les Indiens mayas, un élément ô combien de la culture occidentale et chrétienne, la croix. Mmh. Alors, il s'agissait donc d'une croix qui parlait. Et que prêchait la croix ? La même chose que ce que prêchaient les partisans de Tupac Amaru radicalisés, il faut massacrer les Espagnols qui ne sont pas des bons chrétiens, etc. Le même processus de reprise d'un élément de la culture occidentale chrétienne contre la dite culture.
Nathan Vachtel, vos principaux thèmes de recherche sont les métissages, les processus d'acculturation, les syncrétismes, les mouvements messianiques, les mémoires collectives, les rapports entre l'identité et l'altérité. Alors si vous le voulez bien, on va parler de quelques-uns de vos livres pour donner une idée concrète de ce dont il est question, c'est-à-dire qu'on va poursuivre avec des exemples. Donc deux axes de travail, le premier est consacré aux études andines, et dans ce cadre, vous avez publié, alors je ne cite que quelques livres, hein, chez Gallimard évidemment le tout premier, La vision des vaincus. Alors ça, c'est les Indiens du Pérou devant la conquête espagnole, 1530-1570. Et là, on est dans la violence à l'état pur. Enfin, deux mondes qui viennent se fracasser l'un contre l'autre. Et c'est un choc qui, au fond, coûta la vie à presque 20 millions de personnes.
Hein. Les chiffres sont difficiles, comment dire, sont toujours discutés. Hein, mais en ordre de grandeur, disons, et si on en reste à l'ère andine, parce qu'on estime, j'en reste à ces chiffres, qui continuent à être acceptés, je crois. Au moment de la conquête, il y avait dans le monde andin quelques 8 à 10 millions de personnes, et un siècle plus tard, la chute avait été de 80-90%. Il ne restait plus que 1 million et quelques. Mais la chute en question, il faut bien insister sur le fait que elle résulte sur non seulement des guerres, des massacres et autres, mais elle résulte surtout des épidémies, puisque les populations américaines n'étaient pas immunisées contre les maladies introduites par les Européens, variole, peste et autres, grippe même.
Ce qui est magnifique et très étrange aussi, c'est la manière dont, au fond, les Espagnols qui débarquent sur ce continent sont éblouis par la culture, par la beauté de ce qu'ils voient autour d'eux.
Il y a des descriptions qui sont en effet émerveillées, et les Espagnols, quand ils arrivent, sont émerveillés non seulement par les paysages, parce qu'ils croient se retrouver dans le continent du paradis, mais également par les réalisations humaines, les villes, les monuments qu'il compare aux plus belles réalisations européennes.
Alors, chez Gallimard également, un essai intitulé « Le retour des ancêtres, les Indiens Zurus de Bolivie ». Alors, les Zurus, c'est un peuple qui est en quelque sorte l'opprimé des opprimés, c'est ça?
Ils sont
considérés au fond comme des sous-hommes.
En effet. Alors, dans ce livre, qui est une continuation chronologique de la vision des vaincus, hein, puisque dans ce livre, je continue l'étude jusqu'au XXe siècle, et l'un des sous-titres est « Histoire régressive » parce que j'ai placé la partie ethnographique en première partie. C'est dans ce livre que j'ai pu réaliser la combinaison la plus équilibrée entre ethnographie, anthropologie et histoire, et j'avais choisi le sujet justement dans ce but, parce que les archives espagnoles, quoique fragmentaires, étaient quand même suffisamment abondantes pour traiter de manière assez complète la partie historique. Et alors, le groupe des Zurus, alors qui lui était beaucoup plus réduit, puisque le village où j'ai travaillé à Chipaya ne comptait à l'époque que 1500 habitants, 2000 au maximum. Mais alors, effectivement, dans ce travail, j'ai essayé d'approfondir la vision des vaincus en travaillant sur, en étudiant
les vaincus.
Voilà. Car les Zurus sont un groupe dominé, méprisé, exploité par les Aymaras. Ah, il faut préciser alors, et c'est ce que j'établis dans le livre en question, que les Zurus, au XVIe siècle, représentaient une partie importante de la population dans les Andes, car ils composaient environ le quart de la population. Et alors, cela fait partie de la partie historique de mon travail, de voir comment ce groupe Zuru, c'est en quelque sorte les Zurus. Alors, sont des chasseurs, pêcheurs,
donc des nomades,
plutôt nomades, et qui étaient en voie de sédentarisation au moment où les Espagnols sont arrivés. Mais la plus grande partie des Zurus étaient donc des éleveurs, chasseurs, qui étaient donc soumis, marginalisés par les Indiens Aymara, considérés par les Indiens Aymara comme des descendants de l'humanité antérieure, c'est-à-dire de l'humanité qui a précédé le soleil, c'est-à-dire que ce ne sont pas des hommes comme nous. Dans la mythologie des Zurus eux-mêmes, ceci est plus ou moins accepté, interprété, mais la question n'est pas là. C'était pour, justement dans ce livre, aller approfondir le renversement de l'européocentrisme et dans cette cascade de domination, les Espagnols, les Indiens, Quichua ou Aymara, qui à leur tour dominent d'autres groupes indiens qui sont vaincus et dominés, il n'y a pas, c'est un abîme sans fond, ou alors il faut aller, il y a toujours quelqu'un qui est encore plus
dénué
et plus démuni que celui qui domine, encore plus bien. Et ce qui s'est passé dans les courants des XVIIe et XVIIIe siècles, c'est que le groupe dominant, qui était le groupe Aymara, a en somme imposé sa culture, à commencer la langue, les coutumes, et à la fin du XVIIe siècle et dans le courant du XVIIIe siècle, les Zurus ne représentaient plus d'ailleurs que sont passés donc de 25% de la population à quelque chose comme 5, 10, suivant les régions, évidemment, suivant les régions. Alors, ces hommes d'eau, comme je le dis quelque part, s'étaient en quelque sorte évaporés. Mais évaporés, non, pas. Il n'était pas devenu de la vapeur, il s'était aymarisé. Et le groupe de Tchipaïa actuel est donc l'un des derniers vestiges de ces Zourous qui, au VIe siècle, représentaient quand même une partie plus importante de la population. Mais à ce propos, je crois que ce sera peut-être intéressant de raconter la scène qui m'a inspiré pour donner le titre du livre « Le retour des ancêtres ».
Oui, oui.
Car elle est emblématique, justement, de ce jeu de l'identité et de la mémoire, problèmes qui m'ont toujours inspiré, y compris quand je suis passé des Indiens aux Maranes. Alors, la scène en question remonte au voyage que j'avais entrepris depuis Tchipaïa jusque d'autres Zourous, justement, encore plus dénués, encore plus démunis que les Indiens Tchipaïa. Oui, les Indiens Tchipaïa sont sédentarisés, ils sont éleveurs principalement, mais leur territoire est semi-désertique car il est situé au bord d'une saline. Bien. Et ils sont éleveurs surtout de moutons, un peu de lama, et ils ne cultivent que la quinoa parce que même les pommes de terre ne peuvent à cette altitude et dans ce territoire salé semi-désertique, les rendements donc sont vraiment très limités. Donc les Tchipaïa avaient entendu parler d'autres Zourous qui, eux, sont complètement pêcheurs et chasseurs, qui vivent sur les bords du lac Popo, et donc qui n'ont pas de territoire propre. Ils vivent donc, ce sont des hameaux qui sont sur le rivage, et l'exploitation est donc principalement celle de la pêche. Et les Tchipaïa, donc, ont entendu parler de ces frères Ourous, mais ils n'en avaient jamais rencontré. Donc, je les ai encouragés et j'ai pris à charge le voyage. Intervenant d'ailleurs, là je ne sais pas si du point de vue déontologique la chose est recommandable, c'était une expérimentation. Bon. Et l'expérimentation en question a donné un résultat en effet qui est le suivant. Quand nous sommes arrivés dans le hameau des Indiens Muratos, c'est le nom des Indiens Ourous, qui sont établis sur les bords du lac Popo, les Indiens Muratos ont vu arriver les frères Tchipaïa, alors avec enthousiasme, ils se sont salués chaleureusement, c'était déjà des scènes très émouvantes, et pendant 2 jours, alors ils ont passé tout leur temps à se raconter leurs coutumes. Ah, c'était plutôt les Indiens Muratos qui ont perdu justement et leur langue, car ils sont aymarisés, ils ne connaissent plus la langue Pukina, la langue des Zourous, et qui donc interrogeaient les Indiens Tchipaïa sur leurs coutumes, leurs rites, les termes de parenté, etc. Bien. Et au moment du départ, c'est là que la scène est vraiment extraordinaire, nous partions donc en fin d'après-midi, et spontanément, alors cette despedida, ces adieux, ont eu lieu de la manière suivante. Les Muratos, les Indiens Muratos, hommes et femmes, ont fait un cercle, un demi-cercle autour des deux amis informateurs Tchipaïa, et leur ont demandé de parler dans leur langue, dans la langue Ourous, que les Muratos ne connaissaient plus.
Avaient complètement oublié.
Dans la langue des ancêtres. Alors, tout naturellement, les deux visiteurs Tchipaïa ont parlé dans la langue Ourous. Et ce qui a été vraiment extraordinaire, c'est quand les Indiens Muratos, hommes et femmes, spontanément, sans se concerter, ont enlevé leur chapeau, baisser la tête dans une attitude de prière, et ils ont écouté religieusement, c'était un moment sacré, ils ont écouté religieusement la langue qu'ils ne connaissaient plus. Ils écoutaient, sans comprendre un seul mot, ils écoutaient la langue des ancêtres. Et ces amis Chipaya incarnaient donc, c'était un télescopage du passé et du présent, ces Indiens Chipaya incarnaient le retour des ancêtres.
C'est une histoire absolument bouleversante, Nathan Vachtel. Je voulais juste vous demander une petite précision, parce que vous avez fait allusion tout à l'heure à des manquements dans les archives, des choses qu'on ne trouve pas, qu'on ne trouve plus. Je pensais pourtant que les archives espagnoles avaient été tenues magnifiquement, que l'administration espagnole était finalement tatillonne et qu'elle inscrivait tout.
L'administration espagnole était tout à fait remarquable et inscrivait, sinon tout, en tout cas beaucoup de choses, oui, bien sûr, mais ce sont les aléas de toutes les archives du monde. Vous allez à Potosi, à 4000 mètres d'altitude, les garros, les livres du XVIe siècle, sont conservés de manière impeccable et sont aussi frais, presque, qu'au premier jour, 4 siècles ou 5 siècles plus tard. À Lima, dans le climat humide, 100% d'humidité à Lima. Hélas, souvent, les documents tombent en miettes sous vos, entre vos doigts en tournant les pages. Même chose à Buenos Aires. Donc, tout dépend des aléas de la conservation.
On peut juste signaler, par exemple, encore un troisième livre, « Dieu et vampires, retour à Chipaya », c'est sur les Indiens Chipaya, pour qui, au fond, l'intrusion de la modernité a défait complètement les cultes ancestraux.
Puisqu'on parle de ce livre, qui est un livre plus bref, alors c'était « Le retour au village », un genre classique, oui. Mais c'est dans ce livre que je raconte qu'il m'est arrivé un jour d'être Dieu, et ça vaut la peine, comment dire, d'être raconté, mais là je n'ai plus beaucoup le temps. Quand on m'avait demandé de présider au rituel d'une divinité païenne, il faut à un moment donné incarner la dite divinité, et il a bien fallu que je le fasse, et bon, je renvoie au livre, je ne peux pas raconter l'épisode maintenant, mais si j'ai été Dieu un jour, j'ai aussi failli être vampire, c'est-à-dire la situation était délicate. Mais peut-être souhaitez-vous que nous passions aux ouvrages suivants.
Absolument. Mais je voudrais, Nathan Vachtel, qu'on parle un peu de vos travaux sur les Maranes. Alors évidemment, le lien entre les Indiens d'Amérique du Sud et les Maranes, donc ces Juifs forcés à la conversion, dont beaucoup se sont réfugiés dans cette partie de l'Amérique devenue latine. Il y a un lien presque, je dirais pas tout à fait direct, mais presque direct. Maran, c'est au départ une injure, hein, je crois, qui veut dire espèce de cochon.
Au départ, oui, bon, Maran, au départ, est une insulte, mais le terme est admis par les historiens,
oui.
Parce qu'il est très commode. Il est admis dans un sens évidemment neutre.
Bien sûr.
Évidemment. Bon. Maintenant, le lien n'est pas évident. Oui, il y a un lien personnel, d'accord. Mais il y a aussi les choix de recherche, de sujets de recherche, comportent toujours quelque chose de subjectif, inévitablement, mais aussi comportent, heureusement, hein, des facteurs scientifiques et objectifs. Hein. Et quand je suis passé des Indiens aux Maranes, c'était donc dans les années 90, un livre a assuré la transition. C'est le livre que j'avais publié à la suite d'une recherche sur la mémoire juive, le livre que j'avais publié avec Lucette Valinci sur les mémoires juives. C'est pour dire que, de même que dans les années 60, il y avait cette conjoncture de décolonisation, dans les années 70, 80, 90, en France en tout cas, mais pas seulement en France, il y avait cette conjoncture de, comment dire, de recherche des racines, de recherche du passé, et cette mode, au bon sens du terme, de la mémoire. Bien. Et le travail que j'avais donc fait avec Lucette Vanassi sur les mémoires juives s'inscrivait dans ce qui était donc un des thèmes de recherche auxquels participaient de nombreux autres collègues. Et pour en venir donc au Maran, ce livre fait la transition. Et à l'époque, donc au début des années 90, au moment donc où j'avais été élu au Collège de France, les études que j'avais consacrées au monde andin arrivaient donc à l'étape des dieux et vampires, et tout en continuant sur les thèmes, la problématique de l'identité et de la mémoire, au cours de mon itinéraire, je m'étais rendu compte que, comme vous venez de le dire, les archives de l'administration espagnole, au départ, sont admirablement tenues. Hein, et j'avais en effet, sans y travailler encore, connaissance du fait que les archives inquisitoriales sont d'une richesse tout à fait remarquable. Bon, je n'entre pas maintenant, on n'a pas le temps, dans le débat, ces archives sont-elles fiables, ne sont-elles pas fiables Toutes les archives, qu'elles soient celles des dominants, qu'elles soient celles des dominés, toutes les archives sont biaisées. Les archives inquisitoriales comme les autres.
Oui, oui.
Mais en appliquant ce qu'on appelle la critique historique, toutes les archives sont, passionnantes à étudier si elles contiennent justement ce que l'on recherche bien. Et les archives inquisitoriales de Mexico, surtout, et de Madrid, bien sûr, et surtout de Lisbonne. À Lisbonne, 40 000 procès qui sont encore en attente d'exploitation. Bon, mes prédécesseurs, Reva, au Collège de France et d'autres ont déjà pas mal avancé le travail, mais c'est pour dire que en quantité et en qualité, les archives inquisitoriales sont d'une richesse vraiment prodigieuse. Alors la question se posait, puisque j'essayais toujours de combiner l'étude du passé et l'étude du présent, existait-il encore des maranes contemporains? Alors, en 1924, un livre avait fait sensation, c'est le livre de Samuel Schwartz,
oui,
qui vient d'être réédité par les éditions Chandaigne. J'y ai donné une préface, et c'est la découverte par Samuel Schwartz des, pour faire court, des marins de Belmonte au Portugal. Bien. Et donc, ce livre mettait déjà sur la piste de la tradition lusitanienne, plus qu'espagnole, du maintien d'une mémoire marane. Là, on n'a peut-être pas le temps d'entrer dans les facteurs d'explication, mais je suis donc allé à la recherche des maranes contemporains
dans votre
dans
livre,
le monde lusitanien.
Mémoire marane, justement.
Et y compris dans La foi du souvenir, il y a un épilogue où j'avais tenu justement à donner les premiers résultats de l'enquête qui était en cours sur la recherche des marins contemporains dans le Brésil du Nord-Est.
Voilà, il semble qu'au Brésil, en tout cas, cette trace de mixage religieux, sous d'ailleurs divers aspects, est toujours très très vivante alors.
Alors, elle est toujours très vivante, même si maintenant le maranisme qui exige justement une certaine discrétion et le secret, est de plus en plus difficile à pratiquer. Ce qui m'a permis d'étudier donc ces marins contemporains, c'est le fait qu'une partie d'entre eux ne reste plus marins, c'est-à-dire judaïsant de manière discrète et clandestine, et c'est une minorité d'entre eux qui revient au judaïsme, mais en suivant justement les réseaux qui permettaient de retrouver les différentes familles, j'ai pu suivre justement d'un informateur, comme nous disons dans notre jargon, à un autre, j'ai pu constituer donc un échantillon que j'espère, que je crois représentatif, et qui consiste surtout à travailler sur les récits de vie. Je n'ai pas pu pratiquer une étude ethnographique anthropologique aussi complète que j'avais pu le faire sur les Indiens de Bolivie, mais il s'agit, là encore, de réunir l'étude du passé et l'étude du présent et de passer de l'un à l'autre.
Alors, un livre que moi j'aime beaucoup personnellement, c'est La logique des bûchers, paru aux éditions du Seuil. C'est vraiment une analyse très très minutieuse de la machine répressive inquisitoriale. Et alors, notamment de cet usage terrifiant, enfin, qui est à mon avis presque la pire chose qui existe, qui est la délation. Ils ont vraiment mis en place un système dénonciation.
Alors, etc. Dans ce livre, je me suis efforcé depuis le début jusqu'aux derniers travaux, comme vous l'avez dit, de restituer la vision des vaincus, etc. Mais il est bien vrai que, et je le dis aussi dès le début, à commencer dans la vision des vaincus, on ne peut pas étudier les vaincus sans tenir compte des vainqueurs.
Sans savoir qui sont les vainqueurs.
Combiner, oui. Au moins partiellement, combiner la vision des vainqueurs, le système qu'imposent les vainqueurs, sinon on ne peut pas étudier la vision des vaincus sans étudier en même temps le système qu'imposent les vainqueurs. Et alors, dans la logique des bûchers, j'ai centré davantage, en effet, sur la machine bureaucratique déjà moderne qu'installent les tribunaux de l'Inquisition.
Ah oui, on a tout à fait l'impression d'être à l'origine des horreurs du XXe siècle.
C'est en effet une persécution des judaïsants par des méthodes rationnelles. Et ce que vous évoquiez tout à l'heure, à propos justement du système tellement efficace de la bureaucratie inquisitoriale, car oui, tout est noté. Donc les archives, c'est un trésor pour les historiens. Mais si les archives inquisitoriales de, je fais une parenthèse, mais vous allez comprendre, si les archives inquisitoriales à Lima, malheureusement pour l'historien, ont disparu en grande partie, c'est que au début du XXe siècle, au moment de l'indépendance du Pérou, quand les libéraux sont parvenus au pouvoir, pour détruire justement ces sources de persécution, ils ont détruit en grande partie les archives inquisitoriales. Dans leur logique, ils avaient évidemment raison, oui, mais pour l'historien, c'est évidemment un désastre. Bon. Et alors, attendez, à propos justement du fait que les inquisiteurs parvenaient, c'est une boutade qu'avait lancée mon prédécesseur Reva à Pierre Chaunu, avec qui il avait un entretien. L'inquisition a toujours raison. Bon, l'inquisition n'a pas tout. C'était une boutade pour dire quoi? Pour dire que dans 95% des cas, hélas, et la lecture des documents est vraiment très pénible à faire, dans la plus grande partie des cas, ils parviennent à faire avouer. Alors, je n'entre pas davantage dans le détail. Les aveux sont dans les questions. Il faut faire attention à ce que les aveux ne soient pas stéréotypés. Ce n'est pas là que je vais en venir. Où veux-je en venir maintenant? Les inquisiteurs savent très bien que le meilleur moyen d'obtenir des aveux, ça n'est pas la violence, ce n'est pas la torture. Parce que quand un prisonnier est supplicié, torturé, on n'obtient pas des bons aveux. Ou bien il dit n'importe quoi, ou bien il ne dit rien parce qu'il est suffisamment ferme. Ce sont des cas évidemment exceptionnels, admirables. Il ne dit rien, il se tait. Et donc, ce n'est pas la peine de le torturer. Quel est le meilleur moyen d'obtenir justement les aveux? C'est la délation. Ou alors l'espionnage. Oui. Et là, on a le système des cellules où on surveille, on écoute au mur, etc. C'est la délation et l'espionnage.
Vous nous dites un mot sur votre livre intitulé « Entre Moïse et Jésus, études maranes, 15e, 21e siècle ». C'est paru aux éditions du CNRS.
Parce que l'enquête s'est prolongée jusque dans les années 2000-2008.
Parce qu'il y a toutes sortes d'histoires très étonnantes dans ce livre.
C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, je n'ai pas pu me recueillir un très grand nombre de récits de vie, mais enfin quand même plusieurs dizaines, et ils sont complémentaires dans la mesure où il y a donc des cas de personnes qui ont une foi juive très fervente et qui mènent, une pratique religieuse vraiment très orthodoxe, aussi orthodoxe, me semble-t-il, à moi, que les plus orthodoxes que l'on peut exiger. Mais d'un autre côté, il y a aussi, alors je pense et vous, je suppose que vous me suggérez l'exemple, je peux dire son nom, puisqu'il est connu publiquement, de Monseigneur Antenor Araujo, qui est donc évêque de Kaiko, qui, lui, ne renie pas, et qui, comment dire, le terme de renier n'est pas bon, évidemment, qui a donc, lui, une foi chrétienne, catholique, qu'on ne peut évidemment pas mettre en doute, et qui ne renie pas son identité, qui est celle de l'identité des nouveaux chrétiens, qui, alors ces familles nouveaux chrétiennes dans le Brésil du Nord-Est, se signalent, elles ne se signalent pas, elles s'efforcent de maintenir clandestinement un certain nombre de coutumes, c'est-à-dire les règles alimentaires et autres, règles funéraires, etc. Et donc, Monseigneur Antenor, tout en étant évêque de Kaiko, mais il y a d'autres exemples de prélats chrétien dont la foi chrétienne ne peut être mise en doute et qui assumaient, revendiquaient fièrement leur identité juive. C'est donc là, en effet, un jeu de la mémoire et de l'identité.
En fait, on s'aperçoit qu'il y a autant de formes d'ailleurs de maranisme que de marane, hein, Nathan Vachtel.
Les options varient en fonction des individus. Oui. Alors, certains donc reviennent à la fois juives. Pour quelle raison? Mais parce que le monde moderne ne permet pas aussi facilement de suivre, par exemple, le mariage qui est prescrit, qui est recommandé par l'aïeul. Maintenant, les pratiques sont quand même plus émancipées. Et donc, suivant les options, on revient à la religion juive, on reste dans la religion chrétienne en continuant les pratiques clandestines ou non. Une bonne partie d'ailleurs ces personnes sont agnostiques mais connaissent leur histoire quand même. Une partie d'entre eux expriment leur identité par l'écriture ou la peinture, c'est le cas justement de ces derniers récits de vie que je cite, ceux de Virgilio et de Coca, l'un poète, l'autre céramiste et peintre, et c'est leur manière d'exprimer leur mémoire et leur identité.
Le jeudi 12 et le vendredi 13 mai 2016 au musée du Quai Branly s'est tenu un important colloque autour de vos travaux intitulé « Nathan Vachtel, histoire et anthropologie ». Alors vous êtes en effet historien et anthropologue et on aura compris que votre œuvre est le produit de ces deux disciplines mêlées, croisées que vous avez tenues ensemble. Alors si vous êtes d'accord, on fait un point rapide sur les quatre grands thèmes développés dans ce colloque.
Vous avez le programme sous les yeux, bah, mieux
écoutez,
que moi.
J'ai les quatre thèmes. Le premier thème s'intitulait « Avers et revers de la conquête ».
Alors, ça portait autour de la vision des vaincus. La première journée était consacrée donc plutôt aux études andines et la deuxième journée plutôt aux études maranes. Bon. Mais les différents intervenants, que je remercie. Alors, donc vous me donnez l'occasion de rééditer mes remerciements et mes félicitations, car vraiment les communications ont été d'une qualité tout à fait exceptionnelle et j'ai été donc d'autant plus honoré. Bien, je crois qu'il y avait un seul collègue qui travaillait lui aussi sur le domaine andin. La plupart des autres travaillaient soit sur le monde maya, sinon d'autres exemples qui venaient de la Sulinde, des Philippines, de Madagascar. Mon collègue Emmanuel Théré a bien voulu lui aussi participer et c'était donc la présence de l'Afrique qui l'assurait. Une recherche également sur la diaspora chinoise. J'ai été surpris moi-même de l'étendue du panorama qui était véritablement planétaire. Mais là, il ne s'agissait pas seulement d'une question d'étendue spatiale, puisque à partir du moment où l'on essaye de, nous y revenons, de combiner histoire et anthropologie, c'est évidemment n'importe quel sujet qui est susceptible d'être abordé justement de cette manière.
Ben, c'est-à-dire, la session 2 s'intitulait « Pratique et destin de l'ethno-histoire ». Alors, est-ce que ce mot « ethno-histoire » reflète bien ce rapport entre l'ethnologie et l'histoire, ou est-ce que c'est un mot valise qui peut peut-être faire surgir d'autres méthodes de travail ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Peu importe le mot que l'on utilise, la question importante est de définir ce que l'on veut dire.
Vous avez raison.
Parce que ethno-histoire peut être contestée pour beaucoup de raisons. Et on peut dire, par exemple, l'ethno-histoire n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'histoire, c'est l'anthropologie. C'est pourquoi, pour l'intitulé de ma chaire, j'ai préféré justement rester prudent
et dire simplement
histoire et anthropologie. Voilà. Ah, dans le dernier livre, oui, je reprends également, avec une préférence, mais les querelles de mots n'ont pas de sens, c'est une perte de temps. Mais en s'entendant sur le sens des mots, le dernier livre des archives au terrain, je lui ai donné comme sous-titre « Essai d'anthropologie historique ». Hein. Et c'est l'expression qui, en 1976, si je ne me trompe, a été inscrite à l'affiche, pour la première fois, à l'affiche du programme de l'École des hautes études en sciences sociales. Ah. Et c'était sous la présidence de Jacques Le Goff qui, lui-même, pour ses travaux, reprenait l'expression « anthropologie historique ». Et c'est une manière aussi de dire que l'on combine histoire et anthropologie. Et je trouve cette expression plus heureuse que ethno-histoire, mais encore une fois, peu importe les termes, on ne fait pas de querelle nominaliste, l'important c'est de s'entendre sur ce qu'on veut dire.
La session 3 s'attachait à la fabrique des mémoires. Alors comment vous, Nathan Vachtel, entendez-vous ce terme de fabrique des mémoires ?
Vous voyez, quand on dit fabrique des mémoires, déjà on suggère, est impliqué le fait que la mémoire est constamment réinventée. Et cette invention de la tradition, pour reprendre l'expression très heureuse de Eric Hobsbawm, c'est ce qu'on veut dire. La mémoire n'est pas figée, justement. Elle est constamment réinventée, fabriquée, en fonction du présent. Et cela permet, j'espère, de réhabiliter ce terme qui comporte, comme beaucoup de termes, le risque. On a bien réhabilité le terme de marin, de maranisme. Pourquoi pas celui de mémoire?
Donc, le thème de la session 4, c'était « Dans le pli des pouvoirs ». C'est très énigmatique, je trouve.
Alors là, c'est mon collègue, Patrick Boucheron, qui entamait justement la session et qui, en se référant à mes travaux et même au premier travail, La vision du vaincu, suggérait que, et on y revient d'ailleurs, on revient à ce que nous disions précédemment concernant la reprise par les vaincus d'éléments des vainqueurs qu'ils retournent contre les vainqueurs. C'est un pouvoir qui est en jeu. Et donc, ce collègue suggérait que cette vision des vaincus, il fallait aussi la lire. Je me permets, ce n'est pas moi qui... c'est ce collègue qui recommandait cette lecture à partir du thème des révoltes, du thème de la praxis. Et dans mon commentaire, je remerciais ce lecteur de m'avoir si bien lu, car la dernière partie de la vision des vaincus s'intitule précisément Praxis. Et je traite dans cette dernière partie des révoltes des années 1560, déjà, quand les Indiens... Alors, il y a le réduit rebelle du descendant de l'Inca qui avait été exécuté par Pizarro, sur l'ordre de Pizarro, disons plus exactement, bien. Et je traite donc de cette révolte dite du Taki-Hongro, où l'on annonce qui, les sorciers, selon nos sources de l'administration espagnole, bon, les sorciers annoncent cette nouvelle que les Waka, c'est-à-dire les divinités andines, ont ressuscité. Il y a une bataille dans le ciel entre les Waka, les divinités andines, et les dieux chrétiens, les saints, Jésus, etc. Et maintenant, c'est le tour des divinités andines de vaincre, et cela annonce le renversement des temps. Ce qui est en bas va devenir en haut, ce qui est en haut va devenir en bas. C'est donc le Pachacuti, c'est-à-dire le renversement de l'espace et du temps, hein. L'avènement, la révolution, pas seulement dans le sens cyclique, mais la révolution dans tous les sens.
Dans le retournement,
du thème,
enfin.
Le retournement, retournement du temps et de l'espace, et cela va être le retour, sinon de l'Empire Inca tel qu'il était, mais en tout cas, l'évacuation des envahisseurs espagnols. Et c'est donc sur cette lecture de la révolte des années 1570 que se termine également le livre « La vision des vaincus ».
Tout ça sera publié de toute façon, je pense, Nathan.
Nous espérons.
Vous êtes très optimiste en ce qui concerne votre discipline, vos travaux et la possibilité de reprendre tout ce que vous avez proposé à l'esprit humain.
Je suis très optimiste pour la bonne raison que, malgré ce que nous disions précédemment, les archives, malgré les contraintes du climat, de la conservation, restent, comment dire, inépuisables, et le présent est encore plus inépuisable.
Merci beaucoup, Nathan Wachtel.
Merci à vous, merci à vous.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec aujourd'hui Nathan Wachtel, professeur honoraire, titulaire de la chaire d'histoire et d'anthropologie des sociétés méso- et sud-américaines. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation : Anne Sécheret. Présentation : Christine Goémé. Rendez-vous demain pour suivre un entretien avec Jacques Bouvresse, titulaire de la chaire de philosophie du langage et de la connaissance. Belle journée à tous. À l'écoute de France Culture.